Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons aujourd'hui regarder la doctrine biblique de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance reste une doctrine fondamentale du christianisme. C'est-à-dire que si vous ne la connaissez pas et vous ne la vivez pas, et si vous ne naissez pas de nouveau, plutôt, vous ne pourrez voir le royaume des cieux. C'est pour cela que nous voulons approfondir ce sujet pour permettre à tous les croyants d'aller plus loin doctrinalement, à tous les étudiants théologiques, à tous les étudiants de la Bible, tous les enseignants du ministère de la parole, d'aller plus loin dans la parole de Dieu sur ces sujets, cette réflexion que nous soumettons à votre appréciation. Nous allons traiter le sujet sur quatre questions principales. La première, c'est comment on est de nouveau? Comment on est de nouveau? Alors nous allons dire autrement, c'est le principe de la nouvelle naissance. Quel est le principe de la nouvelle naissance? Comment on est de nouveau? C'est important de le savoir. La deuxième question, c'est quand nous sommes nés de nouveau, sommes-nous enfants propres de Dieu ou enfants adoptés par Dieu? Ça, c'est le principe de l'adoption que nous avons vu la dernière fois. Ensuite, la troisième question, c'est quand quelqu'un naît de nouveau, qu'est-ce qui change en lui? Parce qu'on nous dit que nous sommes une nouvelle créature, mais mon teint n'a pas changé, ma taille n'a pas changé, mon nom n'a pas changé, ma famille n'a pas changé. J'allais à l'école, après ma nouvelle naissance, je vais toujours dans la même école, je connais ma route, ce sont mes amis. En réalité, qu'est-ce qui a changé en nous? Qu'est-ce qui est nouveau en l'être humain? Et donc, sur cette troisième question, nous allons voir, nous allons traiter ce qui change à la personne quand quelqu'un naît de nouveau, ce qui change en lui. Et la quatrième question, c'est quel est le signe qui prouve que quelqu'un est né de nouveau? Quel est le signe qui prouve que quelqu'un est né de nouveau? Alors, je reprends les quatre points. Premièrement, comment on est de nouveau? Deuxièmement, quand on est de nouveau, sommes-nous devenus enfants propres de Dieu ou enfants adoptés par Dieu? Troisième question, lorsqu'on est de nouveau, qu'est-ce qui change en le chrétien? Qu'est-ce qui change en nous? Et quatrième question, quel est le signe qui prouve qu'une personne est née de nouveau? Voilà les questions que nous allons traiter ensemble durant quelques moments. Nous allons commencer donc par la première question. Comment on est de nouveau? C'est ce que j'ai appelé le principe de la nouvelle naissance. Dans le livre de Jean, chapitre 1, 3, versets 1 à 5, la Bible nous enseigne la nouvelle naissance. C'est un des versets de la nouvelle naissance. On viendra plus loin jusqu'au verset 36 pour comprendre tout ce texte-là et le mécanisme de la nouvelle naissance, qui n'est pas évidente. Jésus a dit dans ce texte, en vérité, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pourrez voir le royaume des cieux. Lorsque Nicodème lui a reposé la question, il a dit, en vérité, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume des cieux. Dans ce texte, Jésus nous dit clairement que dans sa première phrase, naître de nouveau, il a remplacé sa phrase en vérité, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume des cieux. Cette phrase, il a gardé la phrase en changeant naître de nouveau par naître d'eau et d'esprit. Donc il dira, en vérité, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pourrez voir le royaume des cieux. Donc, première définition, naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Mais naître d'eau et d'esprit a créé une grande confusion dans le monde évangélique, dans le monde chrétien, parce que tout de suite, on l'a assimilé au baptême d'eau et au baptême du Saint-Esprit. C'est là que va se trouver tout l'échange et tout l'éclairage que nous voulons apporter, soumettre à votre appréciation afin d'approfondir les Écritures. La nouvelle naissance n'est pas le baptême d'eau. La nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Oh, je sais que ça va faire beaucoup de débats, mais je vous partage quelques textes bibliques. Je vous partage l'esprit et la pensée de Dieu. Vous voyez que la preuve, beaucoup sont baptisés d'eau et puis demain, ils sont de faux chrétiens. Vous voyez que beaucoup sont baptisés du Saint-Esprit et ce sont des ouvriers d'iniquité, des gens dont la condamnation est arrêtée depuis des années. Judas a chassé les démons par le Saint-Esprit. Il a reçu l'Esprit, la puissance de Dieu, il a été appelé apôtre. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament, beaucoup ont été baptisés au travers de la mer. Ils ont été, donc c'était le baptême d'eau. Ils ont été baptisés au travers de la nuée, c'était le baptême du Saint-Esprit. Mais ils ne furent pas trouvés agréables devant Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Alors, ça veut dire que s'ils n'étaient pas nés de nouveau, c'est qu'ils n'étaient pas enfants de Dieu, c'est qu'ils n'étaient pas des nôtres. Parce que personne ne peut renier son enfant. Quel que soit ce que tu es, personne ne peut jeter son enfant dans l'enfer. Si tu es enfant de Dieu, tu es sauvé. Si tu es enfant de Dieu, tu es héritier et co-héritier du royaume des cieux. Donc, il faut qu'on sache ce principe. Naître, c'est donner la vie. Naître, c'est donner la vie. Est-ce que l'eau du baptême donne la vie? Est-ce que le baptême de la puissance du Saint-Esprit donne la vie? Ce sont des instruments bibliques qui sont importants, mais qui n'ont pas pour fonction de donner la vie. Nous allons voir cela au travers des Écritures approfondies. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un sujet pour ceux qui veulent aller en niveau avancé, approfondi de l'étude des Écritures. Nous sommes tous d'accord que Jésus, avec ses apôtres, a ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures et que selon Éphésiens 2:20, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes et il les a appelés ses témoins, il les a félicités à la fin avant qu'ils partent pour dire que vous serez assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc, leur nom était écrit au royaume des cieux. Donc, il leur a fait confiance et il leur a donné la parole de Dieu. Il leur a parlé pendant toute sa vie de tous ses enseignements, de beaucoup de ses enseignements. Nous allons donc nous approcher et avoir les témoignages des apôtres. Nous allons les demander aux apôtres comment on est de nouveau. Est-ce que c'est par le baptême d'eau qu'on est de nouveau? Est-ce que c'est par le baptême du Saint-Esprit qu'on est de nouveau? Allons premièrement demander à l'apôtre Pierre, qui était une des colonnes de l'Église, qui a reçu les clés du royaume des cieux et qui a été le principal responsable des 12 apôtres de l'Église, à qui Jésus a confié de perdre ses brebis. Nous allons aller lui demander comment on est de nous. Qu'est-ce que Jésus leur a dit en matière de nouvelle naissance? Donc, nous lisons 1 Pierre 1, verset 22 à 23. Je lis à partir du 23. Il dit, « Puisque vous avez été régénérés. » Régénéré vient de Genèse, donc c'est naître, c'est faire naître. Et donc, c'est renaître. C'est bien la nouvelle naissance. Dans d'autres versions, on dit, « Puisque vous êtes nés de nouveau. » Le texte nous continue et dit, « Non par une semence incorruptible. » Normalement, pour naître, il faut une semence. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Mais pour naître de la chair, il faut une semence. Il faut la semence d'un homme. Donc, de la même manière dans le domaine spirituel, pour naître de nouveau, pour être régénéré, il faut une semence. Mes frères, hommes de Dieu, étudiants des Écritures, est-ce que le baptême d'eau, l'eau est une semence? Est-ce que vous avez vu dans les Écritures qu'on a pris l'eau pour s'aimer? Non, l'eau n'est pas une semence, on verra ça. L'eau permet d'arroser, l'eau permet de purifier, l'eau permet de faire tout. Mais l'eau ne donne pas la nouvelle naissance. L'eau physique ne donne pas la nouvelle naissance. Donc, il dit, vous avez été régénéré. Pour être régénéré, il faut une semence. Il dit, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Quelle est cette semence incorruptible par laquelle nous sommes régénérés? Pierre, réponds-nous. Il dit, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, une personne est régénérée d'après Pierre, qui est le témoin de Jésus-Christ, important et fondamental, qui est l'une des principales colonnes de l'Église, sur lesquelles nous avons le fondement des apôtres et des prophètes. Il a dit que, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, Pierre nous dit que c'est la parole vivante et permanente, la parole de Dieu qui nous régénère. C'est elle qui est la semence. Et dans toutes les Écritures, c'est connu. La parole est une semence qui est semée en nous. Comme ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Il faut bien une semence pour que ce qui est chair devienne chair. La Bible a déjà dit que chaque semence produise selon son espèce. Donc il faut une semence pour produire. Pour qu'il y ait des oranges, plusieurs oranges, il faut qu'on prenne la semence orange, qu'on la sème, qu'elle produise un arbre qui va donner beaucoup d'oranges. Donc pour que nous soyons des enfants de Dieu, il nous faut une semence qui va être semée et qui va permettre de générer des orangers. Donc ici, de générer des enfants de Dieu. C'est elle qui va nous donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De l'eau physique, l'eau de puits, l'eau qu'on boit ne peut pas être une semence, ne peut pas donner. Puisque c'est de l'eau physique, c'est l'eau de la mer, c'est l'eau du puits, c'est l'eau du robinet, c'est d'abord de l'eau. Donc de l'eau physique qu'on utilise et cette eau ne peut pas donner la nouvelle naissance, n'est pas une semence vivante. Et c'est à ça que je veux vous amener à éclaircir votre horizon, votre connaissance et votre compréhension. Parce que plus on va l'expliquer d'une certaine façon, plus nous avons beaucoup de contradicteurs dans le monde païen, philosophique et tout, qui vont continuer de nous attaquer, ou les autres religions vont continuer de nous attaquer. Parce que la manière dont on va expliquer les Écritures, la manière dont on va préciser les choses va nous choquer. Il y a eu le temps où on pensait que la terre était plate et le monde religieux, on est allé crucifier, même tuer des gens. Mais parce qu'on n'avait pas une nette compréhension que la Bible parlait déjà du cercle de la terre et donc que la terre était ronde depuis. Donc, approchons-nous des Écritures, elles nous donnent beaucoup d'informations. Et quand on va en profondeur, on va en spécialisation. Ici, je parle beaucoup plus aux spécialistes de la parole de Dieu. En allant en spécialisation, on comprend mieux, on maîtrise mieux et chaque chose est posée à sa place. Les frères ordinaires, les chrétiens ordinaires vont pouvoir entrer dans la confusion parce qu'ils lisent beaucoup de choses sur Internet, ils lisent beaucoup de choses, des hommes de Dieu, beaucoup de choses. Mais faites attention, le docteur, l'apôtre ne sont pas à la mesure d'un pasteur ou d'un évangéliste ou d'un prophète, qui ne sont pas les vrais détenteurs du ministère de l'enseignement de la parole de Dieu. C'est important. Lorsque Hérode voulait s'informer de quand naîtrait Jésus, il a approché les pharisiens, le docteur de la loi, pour pouvoir connaître. Et ils ont sondé les Écritures, ils ont dit, c'est à tel endroit qu'il doit naître. Donc, il y a le populisme, mais il y a les spécialistes des Écritures qui sont les apôtres, les docteurs et les apôtres d'abord, et ensuite les autres ministres de la parole qui peuvent aller plus loin. Mais chacun dans sa spécialité. Il y a plusieurs, c'est comme dans une école. Il y a plusieurs professeurs dans une école, mais vous allez voir que le professeur de mathématiques va expliquer tout en français, mais il n'est pas professeur de français. Le professeur de physique est un spécialiste de physique, il va utiliser les mathématiques, mais il n'est pas mathématicien, il est physicien. Donc les ministres de la parole, apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, sont des ministres de la parole, mais chacun dans sa spécialité. Chacun dans sa spécialité. Et il faut s'approcher. Même dans le monde évangélique, théologique, lorsque tu as un doctorat, on dira que tu es un docteur en théologie, qui est différent de la formation d'un pasteur, qui est différent de la formation d'un prophète, ainsi de suite. Donc nous voulons que les docteurs, les enseignants, les ministres de la parole, ceux qui ont la connaissance biblique, puis la diffuser pour que nos frères et sœurs dans le Seigneur, pour que la connaissance abonde et la parole de Dieu abonde. Nous allons aller rapidement. Donc, en interrogeant Pierre, il nous dit que nous sommes régénérés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. On verra quelle est cette parole. Nous allons demander à un deuxième témoin de nous renseigner. Nous allons voir Jacques, qui n'est pas l'apôtre Jacques, mais qui est un des dirigeants de l'Église. Jacques qui a écrit donc le livre de Jacques. Nous allons lui demander, en tant que deuxième témoin, qui était avec les hommes de Dieu, qu'est-ce que Jésus leur a dit en matière de naître de nouveau? Parce qu'ils étaient au temps de Jésus, quand Jésus parlait à Nicodème et tout ça, c'était à cette période-là, ils étaient ensemble, donc Jésus ne peut pas dire mille choses. Ils ont bien compris ce que c'était. Donc nous lisons Jacques 1, verset 18, et nous demandons à Jacques, « Jacques, comment une personne naît de nouveau dans le christianisme ?» Et nous dit ceci, « Il nous a engendrés. » Engendrer, c'est donc naître, c'est mettre au monde, c'est donner la vie. c'est la nouvelle naissance. Il nous a engendrés selon sa volonté. Donc, comme lui, il a voulu. Pas à la manière que nous voulons. Pas à la manière qu'on aurait souhaité. Pas par le baptême de l'eau physique. Non. Quelle était sa volonté? Il nous a engendrés selon sa volonté. Éphésiens nous dit qu'il avait une volonté antérieure avant la fondation. Donc, selon sa volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité. Donc, nous sommes engendrés par la parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, on devient les nouvelles créatures, les premiers résultats des nouvelles créatures qui vont venir demain gouverner le monde, qui vont rentrer. Donc, la nouvelle créature. Donc, il dit que nous avons été engendrés par la parole de vérité. Par la parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, Jacques aussi dit qu'on est engendrés par la parole de vérité. Pierre l'a dit, il dit c'est par la parole vivante. Donc c'est la parole qui engendre. C'est la parole qui fait la nouvelle créature. C'est la parole qui a le pouvoir de faire enfant de Dieu. C'est la parole qui nous donne la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce qu'elle est la sémence de Dieu pour nous engendrer. C'est par une sémence qu'on donne la vie. Nous allons aller voir un troisième témoin, non des moindres, qui est aussi une colonne de l'église qu'on va appeler Jean. L'apôtre Jean. Nous allons voir 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 4 et le verset 12. Au verset 1, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, on parle de la parole. Au verset 4, il dit « En elle était la vie. » Mais naître de nouveau, engendrer, c'est donner la vie. Faire naître de nouveau, c'est donner la vie à quelqu'un. Donc, pour que tu donnes la vie, il faut que tu aies la vie en toi. Donc, on nous dit que cette parole-là, en elle était la vie, qu'on appelle la vie éternelle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, c'est parce que cette parole contient en elle la vie qu'elle peut donner la vie. Faire naître, c'est donner la vie. Engendrer, c'est donner la vie. Et c'est la parole qui est vivante, qui n'est pas morte, qui donne la vie. L'eau est morte. L'eau des puits est mort, on verra tout cela. Mais la parole, c'est spirituel. Et on est du spirituel et non du physique. Et l'eau physique est physique. Elle n'est que le lavage du corps. Mais elle ne peut pas engendrer. On va voir dans une deuxième partie plus loin. À quoi sert le baptême d'eau? À quoi sert le baptême du Saint-Esprit dans les Écritures? C'est comme dans une cuisine. Le couteau sert à couper et non pas à se curer les dents. La cuillère sert à servir les soupes, la fourchette sert à manger, ainsi de suite. L'assiette sert à recevoir. Donc, chaque chose a son utilité dans la parole de Dieu. Et la parole a pour pouvoir te donner la vie. Verset 12, on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçue, donc la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, c'est la parole qui a le pouvoir de faire de quelqu'un un enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, de la volonté de Dieu. Donc, en naissant par la parole, on naît selon la volonté de Dieu. La manière dont Dieu aurait aimé qu'une personne naisse de nouveau. Donc, voilà les trois textes ou les trois témoins importants des Écritures. Jacques était un grand pasteur du temps des croyants. Et ces trois personnes nous disent, ces trois témoins nous disent qu'une personne est engendrée. Une personne naît de nouveau. Une personne devient enfant de Dieu par le pouvoir de la parole. Pourquoi? Trois raisons. Parce que pour naître, il faut une sémence. Pour engendrer, il faut une sémence. La parole est la sémence, est une sémence incorruptible. Deuxièmement, pour donner la vie à une personne, à un enfant, il faut avoir la vie en soi-même. Donc, la parole, c'est en elle que se trouve la vie. Troisièmement, pour donner la vie, il faut avoir ce pouvoir de faire de quelqu'un un enfant de Dieu. Et la parole, quand tu crois en elle, elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous allons voir plus loin que cette parole vivante et permanente, que cette parole en qui est la vie, que cette parole qui a le pouvoir de faire enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. On dit, nous l'avons vu comme la gloire du Fils unique. La parole s'est faite chair. Donc, il y a la parole parlée et il y a la parole vivante. et il y a la parole écrite. La parole écrite, ce sont les Écritures. La parole parlée, c'est celle que nous prêchons. Elle a le pouvoir. Elle sort de la bouche des cieux et elle produit des effets. Et il y a la parole vivante qui est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui donne la vie. Donc, comment naissons-nous de nouveau? C'est par la parole de Dieu. On verra que c'est la parole parlée et la parole vivante qui nous donne la vie éternelle. Nous allons nous arrêter là pour la première partie et nous allons voir plus loin. Donc, revenir ici 1 Jean chapitre 3 pour comprendre donc qu'est-ce que Jésus voulait dire. Vous allez voir que c'est une parabole. Qu'est-ce que Jésus voulait dire en disant naître d'eau et d'esprit? Parce qu'il ne peut pas être en contradiction avec tous ses apôtres. Les apôtres ne peuvent pas contredire Jésus-Christ. Il lui a donné les cautions. Il y en a même qui étaient en prison, il les a libérés. Il dit, prêchez les paroles de cette vie. Ce sont les paroles de vérité qui vont sauver ceux qui vont t'écouter. Ceux qui vont nous écouter, ils comprendront, ils vivront. Ceux qui n'écouteront pas, ils ne vivront pas. Mais j'ai confiance à tous les enfants de Dieu, à beaucoup d'hommes de Dieu qui travaillent, qui se battent. Nous n'allons pas polémiquer, nous allons chercher à éclairer pour que les hommes de Dieu, les pasteurs, les anciens, les dirigeants, les prophètes puissent s'asseoir sur des fondements solides, sur une compréhension plus claire des Écritures. Nous sommes à leur disposition, nous voulons les aider. Nous ne voulons pas dénigrer quelqu'un, nous sommes une église. Je dis toujours, en Israël, il y avait 12 tribus. Chaque tribu avait ses anciens et ses dirigeants, mais c'était Israël. Donc, nous avons plusieurs églises, chaque église a ses anciens et ses dirigeants, mais n'oublions pas, nous sommes une église, nous sommes le corps de Christ, la sémence. Il peut y avoir du mauvais et du bon, mais dans le champ, il peut y avoir des livrets et du blé, mais c'est le royaume des cieux. Le tri se fera à la fin des temps. Pour le moment, distinguons les vrais du faux, distinguons ce qui n'est pas bon de ce qui est bon par la parole de vérité et allons plus loin dans les Écritures. Si quelqu'un a d'un autre avis, marchons d'un pas jusqu'à ce que l'autre soit éclairé. Que Dieu vous bénisse.